Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
L'adolescence, c'est le temps des amis, des sorties, des premiers émois, une curiosité toujours plus grande, le goût de la découverte, des études, de la fête et parfois en toile de fond, des moments de tension, des portes qui claquent, des éclats de voix en famille. Mais pour d'autres, l'adolescence, c'est une période difficile de doute, d'angoisse, prise de risque, isolement et dans les cas extrêmes, conduite suicidaire. Face à ces ados en détresse, les parents se retrouvent souvent démunis. Comment leur donner confiance en eux? Comment rassurer ces jeunes dans une société qui ne leur donne pas forcément de place et où l'actualité les ramène à une violence crue, à des perspectives d'avenir incertaines? Que faire quand l'adolescent désemparé ne supporte plus l'idée de vivre dans ce monde? Avec nous pour en parler, le docteur Marion Robin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre pour adolescents à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris et vous avez signé le livre « Ados désemparés, cherche société vivante » publié aux éditions Odile Jacob. En deuxième partie d'émission, nous serons en ligne avec Cotonou, avec André Alionou, psychologue à l'ONG Assovie, coordonnateur des activités sur le terrain. Et puis, en fin d'émission, nous ferons le point sur une étude internationale sur la santé des jeunes, les inégalités de genre, travail piloté par l'université Johns Hopkins de Baltimore aux États-Unis. Docteur Caroline Moreau, elle est professeure associée à l'école de santé publique de Baltimore, chercheure à l'INSERM aussi, elle a participé à cette étude et elle sera en ligne avec nous.
RFI.
Docteur Marion Robin, dans votre livre, vous décrivez ces jeunes désemparés. Alors comment un parent sait-il si son enfant est en situation de dépression?
Alors, la dépression, elle se voit par un certain nombre de symptômes que les psychiatres peuvent décrire assez facilement du côté du repli, de l'isolement social, de l'isolement du groupe d'amis, mais aussi de l'isolement dans la famille, de l'isolement à l'école par rapport aux professeurs, un repli sur soi. Ça peut être l'évolution vers certaines mises en danger. Ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être des problèmes physiques. C'est des signes qui vont être assez variés, mais c'est important ce que j'ai essayé d'explorer dans ce livre, c'est l'idée de pourquoi les parents peuvent être si en difficulté pour voir ce qui ne va pas chez leur adolescent. Et j'interroge un petit peu à cet endroit-là le fait que les parents, c'est vrai, sont pas les mieux placés pour voir comment va leur adolescent, puisque justement c'est un moment où l'adolescent est en train de prendre une certaine distance vis-à-vis d'eux, dans la mesure où il gagne une intimité, il gagne une vie privée différente de l'enfance. Et donc les parents ont du mal à faire, c'est normal, le distinguo entre ce qui est de l'intimité de l'adolescent, celle dont il a besoin pour se construire et s'autonomiser en vue du passage à l'âge adulte, et celle du repli, qui est un repli dépressif, qui va être quelque chose du côté de la maladie. Et donc voilà, j'interroge un petit peu le fait que finalement, pour voir quand les adolescents ne vont pas bien, c'est difficile d'en rester juste au lien parent-enfant, parce qu'ils sont pas les mieux placés. Et que souvent, ce qui fait dire qu'un ado va pas bien, qu'un adolescent a changé, il y a une rupture avec son état d'avant, ça va être tout le groupe social autour. Ça va être parfois les oncles et tantes, les cousins, mais voilà, si les familles sont plus éparpillées, elles le sont plus qu'avant géographiquement, pour plein de raisons, dont les contraintes professionnelles, etc. On perd un regard aussi, un regard latéral sur leur état et leur évolution. C'est aussi le lien important entre les professeurs et les parents qui va permettre d'échanger. Et plus ils échangent, plus ils ont de possibilités de voir comment ça évolue, éventuellement quand ça va pas bien. Mais c'est vrai que pour voir quand ça va pas bien, il faut pouvoir se connaître quand ça va bien et pouvoir établir tout ce réseau, ce tissu social qui est le principal terreau de la prévention, à mon sens.
Parce que l'adolescent, vous le dites, c'est une période d'évolution, voire même dans certains cas de rupture. Par contre, pas une période de solitude.
Non, pas forcément. Disons que ce changement de distance avec les parents, il est lié à un changement de perception. Voilà, les parents les voyaient d'une certaine façon enfants. C'est plus des êtres idéalisés mis sur un piédestal. Parfois, ils sont même diabolisés au moment de l'adolescence pendant un temps qui est pas forcément ni dramatique ni long, etc. Mais voilà, il y a un changement de perception. Donc, il y a une évolution de la distance qui est tout à fait parallèle à ça. Pour autant, voilà, cette distance, elle est différente. Elle n'empêche pas qu'il y ait plein de moments de complicité quand même. Elle n'empêche pas qu'il y ait des moments où on se retrouve et où, quand ils sont inquiets, ils retournent voir leurs parents comme une base de sécurité pour à nouveau s'en éloigner, explorer le monde. Mais dans ce monde-là, ils vont au contraire se rapprocher d'autres personnes. C'est pas un isolement, c'est un rapprochement d'autres adultes, d'autres figures d'identification. C'est un rapprochement par rapport aux copains. On va trouver une autre. Les adolescents vont trouver une autre source de satisfaction dans le groupe des pères, des amis. Donc non, c'est vraiment un changement de distance, mais qui n'est pas un isolement à tous les endroits, loin de là.
Avec une difficulté d'appréhender quand ça va mal, puisqu'on a un petit peu tout regroupé sous le terme de crise d'adolescence. En fait, au bout du compte, ça ne veut plus rien dire, une crise d'adolescence.
Alors, c'est même le mot de crise en général qui, en ce moment, semble désigner l'idée d'un état extrêmement compliqué sans solution apparente. C'est un peu devenu ça aujourd'hui, la crise, puisqu'on en parle un petit peu sur tous les terrains. Pour ce qui concerne la crise d'adolescence, ce que j'ai essayé de développer, c'est l'idée que oui, il existe pour l'adolescent une crise biologique, psychologique, dans le sens où des forces contraires sont en tension à cet âge-là, notamment ce mouvement paradoxal que l'adolescent a à faire du côté de gagner en autonomie et pour autant de s'assurer que c'est justement ses bases sont tranquilles.
Dans la sécurité malgré tout.
Dans la sécurité malgré tout. Donc là, c'est ça qu'on veut dire quand en psychologie on parle d'une crise, c'est-à-dire la mise en tension de forces contraires. Pour autant, ça ne veut pas dire une crise explosive. Donc j'aime bien distinguer vraiment le fait que biologiquement, psychologiquement, il y a un vrai travail de mise en tension, que pour autant, ça donne pas forcément une crise, et une crise d'ado au sens explosivité du terme, destructivité, non, pas du tout. Alors, dans certains cas, bien sûr, ça arrive, et il faut pouvoir le dire, en parler, il faut pouvoir rassurer sur le fait que des soins peuvent, bien sûr, être nécessaires à ce moment-là et obtenir vraiment toute possibilité de sortir de ces situations extrêmes. Mais à côté de ça, non, là, ça me paraît important de rappeler que la crise, c'est aussi dans la grande majorité des cas l'ouverture, c'est la nouveauté, c'est la possibilité de création de la nouveauté.
Alors tout de suite, ce témoignage, Philippine Lebret a rencontré Lucie. Aujourd'hui, elle a 21 ans, elle est étudiante, mais l'année de ses 18 ans, son père s'est suicidé. Quelques mois plus tard, la jeune fille sombre, mais elle va attendre plusieurs mois avant de consulter un psychiatre. On l'écoute.
Mon père est mort en avril 2014 et c'est seulement en février 2015 que j'ai été voir une psychiatre qui m'a dit que je faisais une dépression. J'en avais plusieurs symptômes, dont la très très grande fatigue, l'incapacité à me lever le matin, les difficultés de concentration, la tristesse permanente, aucune envie de faire quoi que ce soit, et la solitude. À partir de la rentrée scolaire, donc en septembre, j'ai eu des idées suicidaires. Tout le premier semestre, j'ai eu des idées suicidaires, et je prenais le métro tous les matins. Et tous les matins, je me voyais, et c'était vraiment très violent, je me voyais me jeter sous le métro. Et en même temps, il y avait l'autre moitié de moi, parce que c'était seulement une moitié qui avait envie de mourir. L'autre moitié disait « Non, mais ça va aujourd'hui, il fait beau, j'ai pas beaucoup cours, ça va, j'ai fait mes devoirs, il n'y a pas de raison d'avoir peur. » C'était pas une envie, en fait, c'était plus une espèce de pulsion. C'était ça qui était un peu perturbant, c'est que j'avais pas envie de mourir. Par contre, j'avais quand même ces pulsions de « Oh là là, tiens, si ce matin je me jetais sous le métro, je l'avais quand même. »
Pourquoi en février 2015, t'as ressenti le besoin d'aller consulter une psychiatre ?
C'est surtout que je ne savais plus quoi faire d'autre et qu'à ce moment-là, je me suis dit « Bon, si je prends pas des vrais antidépresseurs ou si je fais pas vraiment quelque chose, je vais pas pouvoir continuer comme ça. » Non pas que j'allais me donner la mort, mais c'était trop difficile et c'était trop de souffrance. Ma mère et mon beau-père m'ont dit « Il serait peut-être temps que tu ailles voir une psychiatre parce que là, sinon, tu vas te noyer et tu vas être complètement sous l'eau. » Quand mes parents m'ont dit que peut-être c'était une bonne idée que j'aille voir une psychiatre, je me suis sentie très soulagée. Il y a eu enfin la reconnaissance de la souffrance qui était complètement réelle. Comme si depuis des mois, je vivais avec un truc cassé et qu'enfin, on me disait « Bon, on va peut-être t'emmener à l'hôpital. » Je parlais beaucoup à ma mère et mon beau-père de ce que je vivais dans les premiers temps, peut-être les premières semaines, les premiers mois. Et puis ensuite, j'en ai moins parlé parce que la vie quotidienne a continué. On s'est fait rattraper par la réalité et le rythme de l'école, de l'université, du travail. Et donc, j'en ai moins parlé. Mais j'en parlais quand même de temps en temps avec ma mère, qui assez régulièrement prenait la température et me demandait si ça allait. Et j'avais un peu envie de dire que ça allait parce que je savais que ça avait été aussi compliqué à vivre pour ma mère, sa douleur et d'avoir à appréhender et gérer la mienne. Dans ma famille, j'étais pas la seule à être triste parce que c'est mon père qui est mort, mais c'était aussi le frère de mes oncles et tantes, c'était le fils de mes grands-parents. Et ma mère, la personne qu'elle a perdue, c'était son ex-mari. Alors certes, c'était son ex-mari, mais c'était quand même une personne qu'elle aimait et qu'elle a aimée et dont elle a partagé la vie très longtemps. Elle, en fait, elle était surtout tellement en colère que elle m'a dit plus tard que ça n'aurait pas eu de sens ou que ça aurait n'été qu'ajouter de la douleur pour moi, qu'elle partage avec moi sa colère. Et elle a eu la force de ne pas m'imposer sa douleur et de n'en parler avec moi que si moi je lui demandais. Et elle a complètement laissé la place à ma douleur d'exister. J'ai pris des antidépresseurs pendant un an. Et au bout d'un an, ça allait mieux. Et comment sentir qu'on va mieux quand on prend toujours des antidépresseurs? En fait, je me suis rendu compte que s'il y avait un jour où j'oubliais de prendre mon cachet le matin, si le reste de la journée ça allait, c'est que j'allais bien en fait. Alors que avant, quand je le prenais pas, si j'oubliais de le prendre, je le sentais. Je les prenais le matin et ben vers midi, je sentais que ça allait pas et que j'allais avoir du mal à passer le reste de la journée. Et donc il y a eu d'abord ça et puis après, je me sentais mieux. Et je saurais pas comment dire, mais je savais que c'était pas dû aux antidépresseurs. Je savais que j'avais fait du chemin, que j'avais progressé dans mon deuil, que j'étais beaucoup moins angoissée. Les cours me faisaient moins peur. Je pense que la dépression a complètement joué sur la personne que je suis aujourd'hui et sur mon processus de construction en tant que jeune adulte. Ça m'a rendue beaucoup plus solide d'avoir vécu ça et de m'en être sortie. Et en même temps, ça m'a rendue tellement plus fragile parce que j'ai toujours peur de retomber dedans. Ça m'a appris à discerner et à faire la part des choses entre ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est vraiment important, c'est d'aller bien et d'être heureux. Et ça, je pense que ça me sera utile toute ma vie, et c'est quelque chose que j'ai appris grâce à la dépression et grâce au deuil.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Marion Robin, vous êtes psychiatre pour adolescents à l'Institut Mutualisme Montsouris à Paris. On a entendu cette jeune fille, Lucie, tirer les enseignements de cette période de dépression. Et elle l'a dit, elle a raconté une dépression après un véritable traumatisme familial.
Tout à fait.
Le suicide du père.
Oui, tout à fait. Oui, et Lucie décrit très bien quels sont les symptômes effectivement de la dépression qu'elle a traversée. C'est vraiment une description riche puisqu'elle permet de réaliser effectivement ce que représente ce moment très douloureux.
Est-ce qu'il existe une fragilité propre aux adolescents liée à quelque chose de physique ?
En fait, là, ce moment, Lucie décrit un moment extrêmement dramatique de la vie. Voilà, le décès d'un parent par suicide. Elle décrit tout ce qui a été le parcours, effectivement, depuis le manque physique de cette perte-là, jusqu'à pouvoir partager avec autrui quelle est cette douleur-là. Et c'est à ça que je suis assez sensible, que je suis sensible dans son récit. C'est comment elle est partie d'un sentiment de solitude infinie et comment elle a pu avoir cette force d'avoir recourir aux autres, à sa mère, aux autres personnes de la famille, pour finalement partager les émotions. Et c'est vraiment ça qui fait qu'on sort à un moment d'un traumatisme. C'est à partir du moment où on peut commencer à mettre des mots dessus et à partager ses émotions dans la relation à l'autre et pouvoir commencer à établir un lien à partir de là.
Parce qu'elle souligne que la parenthèse du silence et de la souffrance solitaire, c'est vraiment un moment insupportable. Et l'accès aux soins, finalement, permet d'avancer vers quelque chose de libérateur, comme elle le dit à la fin.
Alors oui, dans son parcours, heureusement, effectivement, qu'il y a eu cet accès aux soins possibles qui manifestement lui a participé vraiment à son amélioration et à ce travail de deuil qu'elle a pu faire. Et c'est vrai qu'on a tendance, je crois, à avoir une forme de malentendu social sur la question de l'autonomie, c'est-à-dire avec l'idée, il y a beaucoup de patients qui arrivent comme ça, d'adolescents, pour qui c'est un échec de pas pouvoir se débrouiller seul, comme si l'autonomie, c'était savoir se débrouiller seul. Or, c'est loin d'être ça. En fait, le fait de pouvoir être autonome désigne plutôt le fait de savoir distinguer les moments où on peut effectivement avoir recours à soi et les moments où il faut avoir recours aux autres et les moments où on a besoin d'avoir recours aux autres. Pouvoir distinguer les deux, pouvoir trouver l'équilibre entre les deux, c'est plutôt ça l'autonomie. Donc c'est vrai qu'elle a pu sortir de l'isolement et faire appel aux autres, à sa famille et aux médecins pour pouvoir avancer. Et voilà, ça a été là le moment du changement possible.
Docteur Marion Robin, on va entendre un autre témoignage en ligne de Port-Gentil au Gabon. C'est Habib. Habib, bonjour.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute.
Bon, mais moi, d'abord, au départ, je n'ai pas eu la chance d'avoir une bonne adolescence comme les autres enfants. Au départ, je suis un enfant qui n'a pas connu son père. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas mon père biologique. Donc, j'ai été élevé par mes grands-parents. Donc, du coup, quelques années plus tard, quand j'avais 8 ans, 9 ans, ma mère a trouvé un mari. Elle est partie au foyer. Bon, il fallait que je vienne avec ma maman. Bon, au départ, ça allait bien. En tout cas, c'était bien. Je commençais à aller à l'école jusqu'à ce que j'ai atteint au moins la classe de CE2, CM1. Et quand ma mère a fait un autre enfant, donc mon petit frère, avec son mari, il y avait une différence entre moi et l'enfant. Donc, le mari montrait que j'étais pas vraiment son enfant. Donc, du coup, moi, ça m'emmerdait, ça m'embêtait. Je partais plus bien à l'école. Je partais parfois à l'école affamé. Les droits scolaires, il peut ou n'est pas payé, c'était plus simple. En fait, il faisait plus attention à mon petit frère. Et jusqu'à un jour, je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais fait. Non, j'avais cassé une assiette en cassable et il m'a frappé jusqu'à demander qu'il fallait que je parte de la maison. Et j'avais déjà 12 ans. Il fallait que je parte de la maison. Et quand maman est entrée, je l'ai fait état. Bon. Elle a demandé qu'il fallait que je parte parce qu'il fallait qu'elle protège son foyer. Je ne voyais pas où il fallait aller parce que la ville là où on était vraiment de plusieurs kilomètres de là où étaient mes grands-parents.
Et vous êtes retrouvé à vivre à la rue ?
Oui, j'étais obligé d'aller à la rue avec les enfants du quartier parce qu'à côté, il y avait un petit placard où on vendait les cigarettes. Enfin, au milieu des jeunes, quoi. Donc, c'est là-bas où je me suis réfugié.
Vous aviez quoi comme moyen de subsistance ?
Pardon ?
Pour vivre, vous aviez quoi pour vivre, pour manger ou dormir ? Comment vous faisiez ?
Bon, j'aidais les gens parfois à débrousser un peu l'arrière de la maison, l'herbe, ramasser un peu les poubelles. À la fin, je me donne parfois 500, 300, je peux aller manger. Et jusqu'à un jour, j'ai un ami qu'on dormait tous, parce qu'on dormait à 7, qui est rentré avec beaucoup d'argent. Et après, il nous a montré comment il a gagné l'argent. Il a arraché le sac à main à une dame. Donc, moi, si j'ai trouvé, c'était bien, au lieu de ramasser les poubelles, arracher les sacs. La nuit, ça ne me coûtait rien du tout.
Donc, une période de délinquance après la rue. Et ensuite, vous tombez en dépression après aussi des conduites d'addiction du cannabis, c'est ça ?
Oui. Et après, je sais que ça partait et en fait. Et une fois pas une autre. Donc j'ai commencé à arracher les sacs. Il fallait maintenant chercher à être en meule. J'ai commencé à fumer de l'herbe. Et quand je fumais, ça me faisait mal la tête, ça descendait jusqu'à la colonne. Et à tel point que je pouvais faire toute une journée sans me réveiller. Mais quand je me réveillais le matin, j'avais envie de faire du mal. Et jusqu'à un jour, je me suis dit que ma vie ne peut pas terminer comme ça. Soit j'ai fini avec la vie parce que de toute façon, personne ne lui prête attention à moi.
Habib,
on va vous
retrouver après la pause dans Priorité Santé. On donnera bien sûr la parole au docteur Marion Robin pour réagir à ce parcours, à votre détresse. On va vous retrouver dans 3 minutes environ sur l'antenne de RFI. Et vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et cette thématique du jour des ados désemparés, pour en parler avec nous, docteur Marion Robin, qui est toujours avec nous en studio, psychiatre pour adolescents à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris. Docteur Robin, tout à l'heure, juste avant le point de l'actualité, nous étions en ligne avec Habib à Port-Gentil au Gabon, hein, pour résumer son témoignage de tout à l'heure, cette crise familiale. Un jeune garçon, il n'a même pas 15 ans, il est jeté à la rue, délinquance, cannabis. On vous retrouve, Habib, en direct du Gabon. Après, que s'est-il passé justement après cette période où vous avez fumé des joints et vous étiez donc toujours dans la rue?
Oui, j'étais toujours dans la rue et j'étais beaucoup... j'étais dépassé, la dépression avait vraiment pris le dessus sur moi. Jusqu'à un jour, je dis bon, c'est mieux que je puisse faire mettre un terme à ma vie puisque personne ne prêtait attention à ma vie. Donc j'ai acheté trois plaquettes de Nivacaine, donc je faisais 50 comprimés. Je me suis dit que si je pouvais l'avaler, une fois, ça allait m'aider à stopper à ma vie. Donc je suis rentré dans une maison inachevée, au moment que je voyais un peu les comprimés. J'ai vu un monsieur rentrer, je ne connais pas au départ, qui m'a tendu la main, qui m'a dit « arrête de faire ça, je vais t'aider, je vais t'apprendre ce que c'est la vie, je vais te donner la vie et tu n'auras plus rien à faire et tu ne vas plus faire de mal aux gens. »
C'est quelqu'un qui vous a pris sous son bras, quelqu'un qui vous a appuyé, c'était quelqu'un que vous ne connaissiez pas?
Non, je ne connaissais pas ce monsieur au départ. Je l'ai connu une fois qu'il m'a pris et que je suis allé habiter avec lui, jusqu'à ce qu'il m'a pris, un métier. Et c'est là où il est devenu mon père.
Merci beaucoup, Habib. À vous, docteur Marion Robin, comment vous réagissez à ce témoignage? On voit une adolescence totalement chaotique, avec un passage par une période d'addiction et ensuite cette tentative de mettre fin à ses jours.
Oui, ce que décrit bien Habib, c'est un besoin universel de l'enfant qui est de s'appuyer sur des liens d'attachement dans une continuité importante et d'avoir recours comme ça aux adultes qui sont les figures socles dans un, voilà, avec un besoin de prévisibilité, donc de stabilité, de continuité. Donc vraiment, il a traversé une épreuve extrêmement compliquée pour n'importe quel enfant, n'importe quel adolescent dans cette situation. Et ce que je trouve qu'il décrit très bien, c'est comment la rencontre, effectivement, la rencontre d'une personne a pu modifier le chemin de sa vie. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai essayé de développer dans ce livre Ados désemparés, cherche société vivante, c'est-à-dire que on parle de prévention pour les adolescents qui sont en souffrance, et la prévention ça passe par les institutions, l'État, mais je trouve ça important aussi de réaliser qu'à tous les niveaux, finalement, chacun peut avoir un pouvoir dans le fait de changer le cours des choses.
Et l'importance du référent, oui. Une crise de référence aussi, parce qu'on dit « et confiance en l'avenir ». Quel avenir? Donc il faut qu'il y ait des personnes, des mains tendues qui redonnent justement cette confiance.
Voilà, j'ai essayé de raisonner à trois niveaux, c'est-à-dire le niveau global de la société. Comment est-ce qu'ensemble, collectivement, on arrive aujourd'hui à faire rempart, c'est-à-dire à gérer ces peurs-là collectives, rien que pour nos ados, parce qu'on est obligé de le faire pour eux, ou quand on est parent, de le faire pour ses enfants, c'est-à-dire à la fois filtrer des choses, donner des informations pour penser, et sortir juste de l'émotion brute par rapport à des traumatismes collectifs, et comment essayer de remettre toujours là-dedans de la pensée, de l'échange, du collectif. Ensuite, le niveau global, c'est le deuxième niveau de raisonnement, c'est-à-dire la cellule familiale, les amis, les professeurs, les éducateurs. Comment on peut avoir un pouvoir ensemble de contenir un adolescent en développement? Et puis ensuite, il y a le niveau individuel. Qu'est-ce qui appartient à l'adolescent lui-même? Qu'est-ce qu'il a à faire lui aussi comme travail qu'on ne peut pas faire à sa place? Et c'est vrai que la prévention, je crois, elle passe par ces trois niveaux ensemble. Elle est à penser vraiment à chaque fois comme des poupées russes à ces trois niveaux-là d'analyse.
Vous restez avec nous, docteur Marion Robin. On rejoint Cotonou, au Bénin. Andrea Lionou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue à l'organisation Assovi, un coordonnateur des activités de terrain, responsable de la prise en charge des enfants et adolescents déscolarisés, précisément aussi des enfants placés. Votre association, Andrea Lionou, travaille en particulier avec des filles, avec des jeunes filles.
Bien sûr, c'est ça. C'est bien ça.
Alors décrivez-moi justement votre terrain d'action, votre champ d'action.
En fait, Atobi prend en compte pour ces adolescents, pour la plupart, désemparés, blessés psychologiquement. Et ces enfants qui, pas forcément de leur faute, n'ont pas la chance d'avoir un avenir meilleur comme tout le monde.
Vous les prenez en charge? Vous les prenez en charge dans quel cadre? Ce sont des enfants qui vont vers des centres, que vous croisez dans la rue, qui vous sont conduits par des professionnels, par des enseignants. Comment les rencontrez-vous?
Voilà, nous sommes dans une approche atypique et préventive. Et ici, il y a un phénomène que vous connaissez bien, c'est le placement de l'enfant, pour ne pas dire la traite des enfants qui a beaucoup régressé, c'est vrai, mais le placement continue. Et donc, il y a des enfants que l'on fait venir pour un mieux-être de la campagne, du village, et qui viennent servir comme domestiques, comme seconde main dans les marchés. Et vous les trouvez dans tous les points de rue en train de vendre ou dans les marchés en train de vendre. Pendant que les enfants de la cité substituteur se retrouvent à l'école. Et ces enfants, quand bien même ils étaient scolarisés, sont déscolarisés, pas la chance d'aller à l'école. Donc nous avions implanté des salles de classe dans ces matières-là, avec l'aide des mairies, et nous employons des professionnels, des enseignants, pour enseigner ces enfants pour leur permettre, avec d'autres services, d'acquérir ne serait-ce que des diplômes institutionnels et aussi de faire valoir leurs droits d'enfants, droits à l'enfant, d'aller à l'école, qui quand même a besoin aussi de se réaliser, de se réaliser plus tard. Un peu, voilà un peu ce que nous faisons. Mais dans cette approche-là, nous avions la possibilité de faire un travail de sensibilisation à la base, surtout avec les tuteurs, les parents, parce que le constat est que nous périssons, pour ne pas dire le mal que ces enfants vivent, c'est que les parents n'ont pas l'information. Ils n'ont pas du tout l'information, ils ne savent pas ce que c'est. Et puis, pour bien faire, pour ne pas dire, la plupart du temps, je constate qu'ils vivent leur adolescence ratée à travers l'adolescence des enfants. Nous essayons, dans les sensibilisations de nos parents, l'enfant est une part entière, il faut le laisser vivre sa vie. Vous n'êtes qu'un catalyseur, vous ne pouvez pas vivre à sa place ou sa vie. Et bon, souvent, malheureusement, nous avions affaire aux parents. Tuteurs, la plupart sont des parents tuteurs qui n'ont pratiquement aucun lien avec les enfants à l'origine. Et donc le travail n'est pas aidé. Et nous y arrivons.
Merci beaucoup André Alionou d'avoir été en ligne de Cotonou. Vous êtes psychologue à l'organisation Assovi, coordinateur des activités de terrain. Là aussi, on l'entend, docteur Marion Robin, on entend ce lien familial qui est rompu, des enfants qui se retrouvent en ville à servir d'autres gens, parfois qu'ils ne connaissent même pas, des tuteurs qui en fait ne sont tout sauf des tuteurs.
Oui, tout à fait. J'entends dans le témoignage de cette activité professionnelle un militantisme et une défense effectivement des droits des enfants et un engagement auprès de la protection de l'enfance qui est effectivement extrêmement important et qui effectivement ne peut pas se passer de se pencher sur cette question de la continuité des soins du tout petit jusqu'à l'âge adulte, de la continuité, de la stabilité, de la prévisibilité. Quand les parents ne peuvent pas être, et ça arrive partout, que les parents ne puissent pas assurer les soins pour des raisons médicales, pour des raisons psychiatriques, pour des raisons autres, sociales, enfin. C'est important effectivement que la société puisse avoir des relais de confiance sur des tuteurs qui soient là, mais de façon stable et de façon bienveillante, et surtout inclus dans un groupe, dans un collectif qui permet de protéger ensemble ces mineurs, ces adolescents qui sont en danger.
Et dans votre livre justement Ados désemparés, vous insistez sur cette notion de confiance. La souffrance chez l'adolescent peut arriver justement quand sa confiance est rompue avec quelque chose qui est inhérent à cette croissance de cette période de croissance de la vie, c'est une forme de défiance, mais aussi des déceptions liées à ce que sont en réalité les adultes.
Oui, c'est ça. Il y a pour un enfant, un adolescent qui n'a pas connu donc ces questions de survie ou des situations trop extrêmes, le travail habituel de l'adolescence va être d'acquérir progressivement une autre perception du monde qui peut passer par une forme de déception par rapport à un monde qui était vu comme quelque chose de plus sûr, de plus certain, de plus fiable. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de prise de confiance nécessaire sur ce qu'est le monde en réalité, c'est-à-dire de pouvoir distinguer ce qu'étaient les croyances d'enfant et ce qui va devenir le monde de cet adolescent en devenir vers l'âge adulte. Donc il y a un travail de confiance, un travail de confiance en soi et de confiance en les autres. Et j'insiste un peu dans ce livre sur le fait que ces ados désemparés cherchent une société vivante dans le sens où ça me paraît important qu'on ait en tête tous les terrains sur lesquels la confiance peut leur être donnée, c'est-à-dire que pour un adolescent, finalement, on va parfois trop se focaliser sur juste la scolarité, son métier, ce qu'il va faire plus tard, parce que bien sûr, c'est les préoccupations de tout le monde et que c'est dans une logique de survie pour beaucoup. Mais parfois, ça devient tellement un enjeu de survie que des adolescents peuvent se mettre en danger parce que justement, ils n'arrivent pas à être à la hauteur du diplôme qu'ils attendent. Et on travaille beaucoup vraiment ces questions-là de la pression scolaire que tout le monde se met. Alors qu'en fait, les adolescents sont souvent soulagés rien que par le fait qu'on puisse avoir des objectifs à leur niveau, c'est-à-dire au niveau de cet adolescent-là, au moment où il en est de sa vie, et de pouvoir se mettre à sa hauteur, de son point de vue, et d'envisager avec lui des objectifs qui sont ceux qui lui correspondent le mieux, c'est-à-dire pas l'objectif de tout le monde, c'est celui de ce jeune-là dans ce parcours-là.
Priorité santé sur RFI.
Et docteur Marion Robin, nous donnons la parole à une auditrice, c'est Mariam, elle est en ligne de Conakry en Guinée. Bonjour Mariam.
Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Votre témoignage Mariam.
Au fait, j'ai mon jeune frère, c'est le Benjamin de la famille, il a 17 ans, il fait la médecine. Depuis un certain temps, toute la famille ne le comprend plus. Pourtant, il ne boit pas, il ne fume pas, il n'a pas de petite amie. Mais à la maison, il ne veut écouter personne, il n'a confiance en personne. Et quand il décide de faire quelque chose, il le fait vraiment sans se soucier de la vie des autres. Je ne sais pas, je ne le comprends plus. Pourtant, il n'était pas comme ça lorsqu'il était encore plus jeune.
Mariam, votre frère a changé, mais il a toujours des amis, il sort en dehors de la maison.
Oui, des nouveaux amis, chaque fois on le voit avec de nouveaux amis. Au fait, il n'a pas d'amis stables, je veux dire. Et là, il rejette vraiment toute la famille. Au profit de ses amis qu'il se crée à chaque fois.
Docteur Mario Robin, on entend Mariam qui, elle l'explique, qui ne comprend plus son petit frère.
Oui. Je suis assez sensible effectivement à ce changement que vous semblez vous-même traverser dans vos relations avec votre frère et puis l'inquiétude qui peut en découler. Et c'est vrai que vous précisez bien que finalement il est toujours en lien avec les autres, qu'il se met pas en danger, qu'il a quand même un projet professionnel. Alors vous êtes exactement dans cette période qui est de savoir faire la part entre ce qui s'installe dans la durée ou bien ce qui est un changement pour lui de perception de son propre monde et d'adaptation à son propre monde. Et c'est vrai que pour ça, parfois, la tristesse, j'en parlais tout à l'heure, d'une tristesse passagère et constructive, elle peut être un moment comme ça d'un petit repli qui permet de garder son énergie pour le travail que lui-même a à faire. Donc c'est vrai qu'il peut plus investir tout de la même façon. Donc il peut y avoir comme ça un peu d'énergie mise en repos pour son travail à lui à réaliser sur l'investissement là des études qui viennent, etc. Donc ce qui me paraît important, c'est de voir le caractère souple de ce qui est en train de se passer et le fait que ça ne s'enferre pas dans le temps et dans une forme d'immuabilité, auquel cas là on peut après s'inquiéter et puis en référer au groupe familial, au reste du groupe, et éventuellement à la médecine, aux soignants.
Merci beaucoup, Mariam, en ligne de Conakry. Bonne journée en Guinée. Merci à vous, au revoir. Sonia, vous êtes en ligne de Yaoundé au Cameroun, bonjour.
Bonjour madame.
Votre témoignage, on vous écoute.
Alors, tout a commencé à l'âge de 4 ans, lorsque j'ai eu un abcès à l'œil droit. Par la suite, j'ai subi une opération qui s'est cicatrisée en laissant une tache blanche dans mon nez. Bon, ici, et mes parents, bon, mais mes frères et mes amis me disaient à chaque fois qu'il n'est pas belle. Donc, me lançaient le mot assez violent. Et une petite anecdote, ici, un jour au campus, étant donné que mes camarades étaient habitués à me voir avec les verres légèrement fumés, j'ai dû enlever ces verres pour les nettoyer. Il y a deux d'entre elles qui m'ont dit, « C'est bizarre quand tu enlèves tes lunettes. Il faut les remettre, s'il te plaît. » Du coup, j'ai eu un choc grave et le lendemain, j'avais même encore honte. Moi, maintenant, ce que je demande au docteur, c'est que comment faire pour éradiquer ce complexe qui étouffe et obstrue davantage ma vie, car je n'arrive pas à m'épanouir de façon sociale.
Docteur Marion Robin, cette angoisse de se voir dans le miroir, cette image de soi dévalorisée par les railleries des autres au moment de l'adolescence est encore plus intolérable.
Mmh, tout à fait. Oui, le sentiment de rejet est quelque chose de très, très, très compliqué à surmonter. Et il témoigne au fond de quoi ? D'une seule chose très importante qui est le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance à un groupe. Et ça, c'est vrai pour absolument tous les êtres humains. Le besoin d'être reconnu. Reconnu dans un groupe, c'est pas seulement être un membre anonyme, c'est aussi être reconnu dans sa singularité, dans le fait qu'on est un peu unique. Un peu unique, on est quelqu'un de particulier et on a besoin d'être reconnu pour cette différence-là d'avec les autres et pour autant d'appartenir à ce groupe social. C'est vrai que les jeunes qui sont en situation, par exemple, de crise dépressive grave, ont pour leur majorité un sentiment de, pour diverses raisons, de rejet, de pas être accepté dans leur différence, quelle qu'elle soit. Que ce soit sur les éléments de leur scolarité, c'est-à-dire sur leur forme d'intelligence, que ce soit sur leurs compétences, que ce soit sur leurs aspects physiques ou sur leurs choix sexuels, sur leur identité sexuelle. Et il y a beaucoup de difficultés qui sont liées pas tant aux problèmes sous-jacents, mais plutôt à la question du rejet. Ça, c'est important qu'on en soit très conscient parce qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir sur comment penser l'intégration des jeunes, notamment dans la scolarité, par les questions de tout ce qui est annexe aussi à juste la transmission du savoir cognitif, c'est-à-dire autour de toutes les zones qui peuvent être des occasions de travailler l'intégration, de travailler la transmission entre les élèves, de travailler les projets collaboratifs et aussi les liens avec la société en dehors de l'école, la communauté autour de l'école, c'est-à-dire comment les jeunes peuvent trouver une place, quelle qu'elle soit, dans la société et dans le groupe de pairs.
Depuis le début de cette émission, vous soulignez justement l'importance du relationnel, de l'émotionnel, dans un monde qui plus est pour les jeunes où Internet est très présent et Internet, l'électronique qui a coupé justement cette relation humaine, souvent même entre les jeunes.
Oui, c'est vrai, il y a Internet. Alors Internet, c'est deux choses. C'est d'un côté une coupure, de l'autre côté une ouverture sur le monde. Il y a un peu les deux. Ça n'est qu'un outil au fond, mais il y a eu un vrai changement par rapport à ça. Au-delà de ça, il y a aussi, au-delà d'Internet, bien d'autres façons d'anonymiser les liens entre les humains, enfin que ce soit par les machines, par les caisses automatiques, etc. On a perdu beaucoup d'occasions de se rencontrer au quotidien et quelqu'un peut rester comme ça des jours en ayant un sentiment comme ça d'autosuffisance matériel. Sauf qu'on ne prend pas en compte là, à ce moment-là, le besoin d'échange. Par exemple, il y a des adolescents qui arrivent à l'hôpital en disant, voilà, vous nous observez, et après, vous allez dire à nos parents ce qu'on doit faire, comme une prescription, donc médicale, sur ordonnance, hop, il faut faire ça, prendre tel médicament. Et on passe tout un temps du soin à leur expliquer que non, c'est pas en s'observant les uns les autres qu'on avance, que c'est en s'engageant les uns avec les autres dans une relation et qu'on prend conscience de cet effet qu'on a dans le lien à l'autre et de comment agir dans le lien à l'autre, comment ressentir dans le lien à l'autre de manière tout à fait graduée. Et donc on a d'une certaine façon, et ça c'est les éléments que je décris beaucoup, c'est peut-être même le fil rouge de ce livre Ados désemparés cherchent société vivante, c'est savoir, enfin de décrire comment nous, soignants du psychisme pour ces adolescents-là particulièrement, on est en permanence à contre-courant de certaines valeurs sociales, dont par exemple cette pulsion scopique, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'observer les uns les autres toute la journée et de pouvoir transformer le lien interpersonnel dans quelque chose qui serait plus une observation détachée. Ça, c'est un des exemples. Il y en a plein d'autres. Il y a celui du risque zéro, par exemple, le fait qu'on soit obligé finalement avec les adolescents de leur redonner à un moment une responsabilité et qu'on puisse pas être dans l'illusion de tout contrôler, de tout observer, tout contrôler pour eux. Mais il y a un moment où on est obligé de commercer avec eux sur cette notion de la responsabilité et du risque.
Et retisser donc, on l'a bien compris, le lien à tous les niveaux.
Priorité Santé sur RFI.
L'adolescence, notre sujet du jour dans Priorité Santé, puisque l'on aborde à présent les conclusions d'une étude qui pointe l'utilité des campagnes précoces d'information auprès des jeunes, prévention, action pour lutter contre les inégalités hommes-femmes qui sont d'abord, dans un premier temps, des inégalités filles-garçons, puisque ces inégalités de genre s'amplifient encore à la puberté. En ligne avec nous, docteur Caroline Moreau, bonjour. Docteur Caroline Moreau, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous êtes...
Merci de m'inviter aujourd'hui.
Oui, bonjour. Vous êtes professeur associé à l'école de santé publique John Hopkins de Baltimore aux États-Unis, chercheur à l'INSERM. Alors, cette étude, elle est internationale, étude sur la santé des jeunes. Quelles en sont vos grandes conclusions?
Alors, c'est une étude qui s'est déroulée dans 15 pays, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Elle portait sur les adolescents de 10 à 14 ans et elle visait à étudier comment ces jeunes expérimentaient leur transition de l'âge de l'enfance à l'adolescence et comment ces transitions étaient différentes et vécues de manière différente pour les filles et les garçons. Et on en tire un certain nombre de résultats qui sont publiés dans un recueil d'articles cette semaine. D'abord, le fait qu'il y a un certain nombre de normes de genre, c'est-à-dire des règles de façon de se comporter, d'agir, de penser en tant que garçon et des filles qui sont ancrées dès la jeune adolescence, et ça on le retrouve dans tous les pays. Ces inégalités de genre ont une tonalité assez similaire à travers les pays et en particulier signalent un double standard sexuel où en particulier les jeunes filles au moment du développement pubertaire ont une sexualisation de leur corps qui représente désormais un risque. Elles sont considérées souvent comme des proies sexuelles potentielles qu'il faut protéger. Pour les garçons, cette période de transition est très différente. Ils gagnent en indépendance, ils sont valorisés pour leur force et parfois ils sont considérés comme des prédateurs, mais de l'ordre du naturel et on ne peut pas les contrôler. Alors ces différences selon le genre, c'est-à-dire les garçons et les filles, se traduit par une séparation des sexes au moment de l'adolescence, où on demande aux filles d'éloigner les garçons parce que les garçons sont des dangers pour elles, tandis que les garçons sont encouragés à s'émanciper, à devenir indépendants et à occuper l'espace public. Et donc cette séparation entre garçons et filles finit par une ségrégation des espaces sociaux, puisque les filles sont confinées à la maison, on leur confère des tâches familiales et ménagères, tandis que les garçons sont encouragés à s'aventurer et à occuper l'espace public. Et je pense qu'il y a une citation d'une jeune fille en Égypte qui résume bien cette situation. Cette jeune fille, elle dit « Je me regarde dans la glace et je me dis oui, j'ai grandi. Maintenant, je ne peux plus sortir. »
Merci beaucoup, docteur Caroline Moreau. Avec comme conclusion à cette étude qu'il faut justement lancer peut-être des campagnes d'information, de prévention plus tôt, dès cet âge de 10-14 ans, et ne pas simplement viser un public féminin, mais bien un public mixte, garçon comme fille. Merci, docteur Caroline Moreau. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'école de santé publique Johns Hopkins, à Baltimore, aux États-Unis. Nous allons également remercier le docteur Marion Robin, qui est avec nous en studio. Merci pour cet échange, cette analyse et tous ces conseils directs à nos auditeurs qui étaient en ligne avec nous en direct tout à l'heure. Et pour conclure, je voudrais citer un extrait de votre livre « Ados désemparés, cherche société vivante » publié chez Odile Jacob. C'était la page 132, je lis, « Dès qu'une peur est levée, qu'une colère est exprimée, que le désespoir cède du terrain, qu'un conflit se résout, émergent avec une impressionnante rapidité les forces de vie de l'adolescent. » Parce que l'adolescent, c'est quelqu'un de jeune et qui a toute sa vie devant lui. Merci beaucoup. Demain, à l'occasion de la journée mondiale de la rage, nous allons évoquer avec nos invités cette maladie mortelle. On parlera bien sûr vaccination, hein, comment réagir aussi en cas de morsure, ce qu'il faut faire pour essayer d'éviter la transmission. Le téléphone de Priorité Santé, 33 1 84 22 75 75.
Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.